Heureux de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. Quelquefois, les chansons nous racontent aussi des personnages de cinéma, comme Zorro avec son grand chapeau. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer la mémoire d'Henri Salvador. Il y aura aussi Nogaro, Serge Lama, Jacques Dutronc, Philippe Clay. Dans une nouvelle rubrique, nous écouterons la chanson « Et maintenant ?» deux fois, l'original avec Gilbert Bécaud et une reprise par Isabelle Boulay. Nous aurons également une archive de Joe Dassin qui date de 1980.
Les chansons nous racontent.
Il y a des personnages mythiques. Certains personnages ne viennent pas du monde réel, mais de la fiction. C'est le cas de Zorro. Zorro, surnom qui signifie « renard » en espagnol, est un personnage de fiction créé en 1919 par Johnston McCulley. C'est l'alter ego d'un riche hidalgo qui cache son identité pour combattre l'injustice en Haute-Californie au début du XIXe siècle. Son costume entièrement noir comprend une cape, un chapeau plat, sombrero cordobès et un loup qui masque la partie supérieure de son visage. Ce personnage a inspiré de nombreuses œuvres, romans, bandes dessinées, films, séries télévisées, dessins animés, jeux, ainsi que d'autres héros masqués tels que Batman chez DC Comics, du propre aveu du dessinateur Bob Kane ou El Aguila chez Marvel Comics. Le personnage de Zorro apparaît pour la première fois le 9 août 1919 dans le Pulp All Story Weekly. Il figure sous le surnom de Seigneur Zorro dans le fléau de Capistrano, The Curse of Capistrano, une histoire écrite sous forme de feuilleton par Johnston McCulley. Son nom véritable est alors Don Diego Vega et c'est un riche noble de 24 ans du village de Reyna de Los Angeles en Haute-Californie, une province de la colonie espagnole de Nouvelle-Espagne. L'histoire est adaptée au cinéma dès 1920 sous le titre Le signe de Zorro, The Mark of Zorro. Douglas Fairbanks, la grande star de l'époque, tient le rôle titre. Le film connaît un tel succès que Johnston McCulley écrira plus de 60 autres aventures de Zorro de 1922 à sa mort en 1958. Dans celle-ci, l'identité du justicier reste secrète alors que dans le dernier chapitre du fléau de Capistrano, renommé le signe de Zorro lors de sa publication en roman en 1924, le héros révèle qu'il est Zorro. Lorsque Johnston McCulley meurt en 1958, Zorro, première série télévisée mettant en scène le personnage, commence à susciter un fort engouement. Elle est produite par Walt Disney Pictures avec Guy Williams dans le rôle titre. Les magasins reçoivent alors de nombreux articles à l'effigie de Zorro, cape, masque et même une épée avec une craie sur la pointe. La presse et la télévision sont elles aussi prises par la folie Zorro au point que tout sujet était bon, du refus de Guy Williams de parader à cheval dans l'Oregon au vaccin en forme de Z d'un pédiatre californien évoqué par le magazine Life en passant par le premier baiser du héros titré « Rouge à lèvres » pour marquer Zorro dans le Philadelphia Inquirer. La chanson « Zorro est arrivé » d'Henri Salvador est un morceau emblématique qui parle du personnage de Zorro.
Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince après de la série et très méchamment lui dit
« Si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux. »
Puis il l'empoigna. Il la ficela. Il l'a mis sous la scie.
Et Zorro est
arrivé sans se presser. Le beau Zorro.
Le beau Zorro.
Avec son cheval et son grand chapeau.
Mais bientôt, j'ai pris la deuxième chaîne, car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne, il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le Bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait
Donne-moi ton manche et poupée ou je te transforme en purée.
Puis il l'empoigna. Mais la ficela. Il mit le feu à la dynamite.
Et Zorro est arrivé.
Sans se presser.
Mais moi, j'en avais tellement marre, j'ai repris la première chaîne. Et devant mes yeux hagards, se déroulait la même scène. Et Jojo le bouffi dans un sac fourré, Suzy disant:
donne-moi ton rocher boudin ou je vais te balancer sous le train.
Puis il l'empoigna et il la ficela. Sur les rails, il la fit rouler. Mais le train arrivait, les coupés.
Zorro est arrivé
sans se presser. Le grand Zorro,
le beau Zorro,
avec son cheval et son grand chapeau, avec son flingue et son grand lasso, avec ses bottes et son vieux banjo.
Sacré Zorro.
Chanson extrêmement populaire à sa sortie en 1964, Zorro est arrivé doit son succès à un hasard fou. À l'époque, Henri Salvador amuse la France des années 1960 depuis plusieurs années avec ses chansons rigolotes et un peu bébêtes qu'il autoproduit avec son label bien nommé Rigolo. Il aime se déguiser et se grimer, jouant sur son physique et sur une collection de personnages pour faire rire les téléspectateurs toujours plus nombreux avec l'installation massive des postes de télévision dans les foyers. Zorro est arrivé et, comme beaucoup de tubes de l'époque, une adaptation d'une chanson américaine. Il s'agit d'un morceau des Custers, fameux groupe vocal de New York, qui délire sur les cow-boys. Pas de vaches et d'indiens pour Henri Salvador, qui préfère raconter l'histoire d'un héros qui fait son apparition dans les romans de gare et les BD françaises, Zorro. On murmure même qu'une série télévisée serait en préparation, mais rien n'est sûr. Bref, Henri Salvador flaire le bon coup et campe une galerie de personnages issus de l'histoire du Vengeur masqué. Il est tour à tour Zorro, Sergent Garcia et même la belle Elena. En janvier 1965, rebondissement à peine croyable. La série T Zorro existe bel et bien. Produite par le géant Disney, les épisodes ont conquis la France. Jackpot pour le morceau de Henri Salvador qui coiffe au poteau la bande originale officielle de Disney. L'entreprise passe un accord avec l'artiste qui enregistrera plusieurs morceaux des productions Disney dans les années à venir. Chapeau, Zorro.
Les chansons nous racontent avec Philippe.
Tu verras est une chanson de Claude Nougaro parue en 1978 en 45 tours et sur un album du même nom. Grand succès de son interprète, Claude Nougaro signe ici une libre adaptation de la chanson brésilienne de Chico Buarque, O Que Será.
Ah, tu verras tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, mon stylo emplumé de soleil, neigé sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil, à le joli forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans sa
ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. Le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai le voyou, tu verras, tu verras. Je boirai comme un doué qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée. Et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras contre toi, contre tous. Et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera. Car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, Mozart est fait pour ça. Tu verras, entendras, tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Tu verras est une adaptation française de O que sera, chanson originale du Brésilien Chico Buarque, composée pour le film Dona Flor et ses deux maris de Bruno Barreto. Le texte est une libre adaptation des paroles originales de Chico Buarque, à contrario de la version la même année de la chanteuse brésilienne basée en France, Maria d'Aparecida, qui sur son album Construction reprend la chanson en disant en français une traduction littérale du texte brésilien, qui se révèle être très pessimiste à l'opposé de celui de Nougaro, dont le thème est le renouveau du couple. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour, c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les cieux. Claude Nougaro obtient le prix de l'Académie du disque français l'année de sa sortie.
Les chansons nous racontent.
Selon le site Raconte-nous, un site internet, les souvenirs d'enfance sont très importants dans nos vies. Même le simple fait d'y penser nous fait tellement de bien. En effet, nous pouvons nous rappeler les meilleurs moments de notre vie. Vraisemblablement, les souvenirs d'enfance construisent notre avenir et notre façon de penser. Les personnes avec de bons souvenirs sont généralement des personnes heureuses. De notre côté, certains mauvais souvenirs affecteront également l'avenir d'un individu. Certes, les souvenirs d'enfance ne définissent certainement pas une personne, mais ils jouent un rôle central dans la vie. Les bons souvenirs ne feront pas forcément le bonheur d'un individu, et contrairement, les mauvais souvenirs ne vous rendront pas toujours malheureux. Parfois, des souvenirs horribles de notre jeunesse rendent un homme plus fort. Néanmoins, on peut dire que l'enfant intérieur, qui sommeille en chacun de nous, est maintenu en vie par des souvenirs. Les souvenirs d'enfance peuvent survenir n'importe quand et n'importe où. Certains peuvent être excités en voyant des balançoires. D'autres, en revanche, peuvent agir comme un enfant lorsqu'ils voient leur plat préféré. La raison derrière les faits est que nos souvenirs font partie intégrante de notre vie. Dans tous les cas, les souvenirs d'enfance jouent un rôle très important dans nos vies. C'est un texte que vous pouvez retrouver sur le site Raconte-nous. En l'occurrence, il s'agit de l'enfance. Serge Lama, lui, se rappelle bien son enfance.
Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses années. Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle neige est déjà tombée dans mes cheveux? Les hommes ne sont-ils nés que pour devenir vieux? Mon enfance disparue, quel était le nom de ma rue? Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle fleur a courbé sa tige sous mes pas pour que je sois tombé tout à coup aussi bas? Mon enfance, prends ma main, puisque tu es sur mon chemin. Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses années. Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quel espoir de départ vers des lieux inconnus pour oublier plus tard qui je suis devenu? Mon enfance revenue, dis-moi, qui suis-je devenu? Qu'ai-je fait, qu'ai-je dit, qui suis-je en ce pays? Quelle éternelle nuit se lève dans mes yeux? On récolte l'ennui quand on a ce qu'on veut. Oh mon enfance, quelle envie d'aller chez toi finir ma vie. Mon enfance m'appelle sur des plages de sable. Mon enfance m'appelle sur des plages dorées. Sur elles sont venus s'inscrire impitoyables de nombreuses
Enfance m'appelle est une chanson sortie en 1979, extraite de l'album Enfants d'adolescence. Parmi les comédiens chanteurs, il y a Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, dont la filmographie est intéressante. Nous parlerons un jour de son œuvre en tant que chanteur. En 1973, Jean-Marie Perrier, ex-photographe de Salut les copains, lui propose son premier rôle au cinéma dans Antoine et Sébastien. Jacques partage l'affiche avec François Perrier. La carrière cinématographique de Jacques Dutronc est une réussite. La première est l'important « C'est d'aimer » de Andrew Zulaski, réalisé en 1974. Jacques Dutronc y joue aux côtés de Romy Schneider, avec qui il aura une relation amoureuse le temps du tournage. Dutronc se confronte aux plus grands, Annie Girardot, Michel Piccoli, Jean-Pierre Mariel, Michel Serrault et Jean-Louis Trintignant, Patrick Dewaere, Paradis pour tous, Daniel Auteuil, etc. En 1980, il est pressenti pour le rôle du méchant français René Belloc dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. En 1981, exactement. En vain, car il ne maîtrise pas l'anglais, au grand dépit de Steven Spielberg qui voit en lui le premier acteur du monde et une véritable star. En 1991, il obtient le César du meilleur acteur pour son interprétation de Van Gogh de Maurice Pialat. À propos de son interprétation de Van Gogh, on a dit ainsi qu'il vampirisait le personnage. Une série où Dutronc n'a pas tourné, c'est Arsène Lupin. Il s'est contenté de chanter la chanson du générique.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants. Ou bien sans gants, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle. Et sans scène, l'Arsène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches sans arrivant. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombeurs. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, l'Arsène. Avec son parapluie, sa moustache mise en blé, l'Arsène. Avec son flair infaillible, il est irrésistible. Larsen, irrésistible et parfois invisible, le bel Arsène. C'est un berceur de coffre-fort, c'est un casseur de joli cœur, le redresseur de tous les torts, Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et s'en scène, Larsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, le bel Larsène.
L'une des interprétations musicales les plus emblématiques d'Arsène Lupin est sans conteste la chanson interprétée par Jacques Dutronc, que nous venons d'entendre, pour le générique de la série télévisée des années 70. Cette chanson, simplement intitulée Arsène, est un véritable concentré de l'esprit Lupin. La voix nonchalante et légèrement ironique de Dutronc, alliée à une mélodie entraînante, dépeint un personnage à la fois charmeur et insaisissable. La musique de Jean-Pierre Bourterre, associée aux paroles de Franck Harvel et Yves Desca, crée une atmosphère à la fois mystérieuse et raffinée qui colle parfaitement à l'image du gentleman cambrioleur. Le succès de la série télévisée a largement contribué à populariser la chanson qui est devenue une référence incontournable pour tous les fans d'Arsène Lupin. Il est important de noter qu'il existe en réalité deux chansons interprétées par Jacques Dutronc pour les séries télévisées d'Arsène Lupin. La première, Larsène, a été utilisée pour la première série en 1971, tandis que la seconde, plus connue, a servi de générique à la deuxième série. Les deux chansons capturent l'essence du personnage, mais Arsène reste la plus populaire et la plus diffusée. La quarantaine consiste à isoler des personnes, des animaux ou des végétaux durant un certain temps en cas de suspension de maladies contagieuses pour empêcher leur propagation. En quelque sorte, nous avons connu une quarantaine pendant le Covid. En empêchant les personnes d'avoir des contacts avec des individus sains se trouvant à l'extérieur de la zone de confinement, on rend la contagion impossible et les maladies infectieuses disparaissent d'elles-mêmes. C'est une mesure barrière. L'une des méthodes de prévention et de gestion des risques liés aux maladies infectieuses, épidémies, pandémies notamment. S'il s'agit de personnes malades confirmées, on parle plutôt d'isolement. Au figuré, le mot désigne aussi la condition d'une personne mise volontairement à l'écart, ostracisme. Le mot quarantaine, attesté en français depuis les années 1180, signifiait espace de 40 jours, période du carême. En français, au sens de mesure sanitaire apparue au XIVe siècle, il dérive de l'italien « quaranta », nombre 40, et remonte à 1635. La quarantaine, Philippe Clay en a fait une chanson qui n'engendre pas la mélancolie.
Si l'on avait mis en quarantaine tous les hommes de 40 ans, l'humanité en serait à peine au Moyen-Âge et pour longtemps. Louis Pasteur n'aurait pas découvert son vaccin à 63 ans. L'avion de Clément Allaire n'aurait jamais quitté la Terre. Il avait presque 50 ans. Si l'on avait mis en quarantaine les hommes de 40 ans passés, l'automobile de Monsieur Daimler serait encore à inventer. Si l'on avait mis en quarantaine tous les hommes de 40 ans, il y aurait peut-être moins de problèmes pour la jeunesse. Et pourtant, Victor Hugo n'aurait pas écrit Les Misérables à 60 ans, et Pierre et Marie Curie auraient fini tout juste à temps. Un an plus tard, c'était trop tard. Voltaire et Rousseau ainsi que Marx seraient d'illustres inconnus si l'on avait mis en quarantaine les hommes de 40 ans et plus. Aujourd'hui l'on met en quarantaine tous les hommes de 40 ans. Demandons jeune cadre en moyenne de 25 à 35 ans. Mais avec une bonne expérience et de la personnalité, de l'ambition, des références à venir assurer, assurer pour quelques années. Puisqu'ils ne seront en quarantaine qu'à 40 ans et pas avant, ils auront le temps de prospecter pour ne pas se retrouver sur le pavé. Non, ne mettez plus en quarantaine tous les hommes de 40 ans, sous prétexte que la vie moderne vous fait un homme à 17 ans. Souvenez-vous, à 43 ans, un certain John F. Kennedy était un tout jeune président. Alors, à mon avis, il faudrait leur laisser le temps. Ils ont encore du sang dans les veines, qu'ils vous le donnent et puis après, vous pourrez nous mettre en quarantaine, vous n'aurez rien à regretter.
Après un passage à vide de Philippe Clay et Renaud en 1971 avec le succès en chantant des chansons comme « Mes universités » ou « La quarantaine » que nous venons d'entendre en réaction au mouvement de mai 68. « La quarantaine », chanson écrite par Henri Djane et composée par Daniel Faure, cette chanson brisait certains préjugés en même temps qu'elle dénonçait la discrimination fondée sur l'âge. Une pensée pour Philippe Clay, qui était aussi un grand interprète. Nous allons maintenant inaugurer une nouvelle rubrique, une rubrique sur les reprises des belles chansons françaises. Vous savez, ces chansons qui ont été chantées par plusieurs interprètes. Voici Et maintenant, une chanson composée, interprétée par Gilbert Bécaud en 1961. Les paroles sont de Pierre Delanoë.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Tout toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Nous venons d'entendre la chanson chantée par Gilbert Bécaud. Voici maintenant la reprise, une reprise de cette chanson par Isabelle Boulay.
Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffère? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Ce matin, tu reviens pour rien. Ce cœur qui bat, qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, Paris, les rues. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur. Je n'ai vraiment plus rien.
1980, Joe Dassin se confie un peu sur lui-même et sur sa vie de chanteur.
Je m'étais fait une base solide, je m'aperçois que finalement je passe pas assez de temps chez moi. C'est attristant, mais c'est également très agréable quand on vient à Paris d'être à 20 minutes de l'étoile et de se retrouver dans la verdure. J'ai 4 ou 5 golfs autour de la maison et ça me permet quand j'ai 2 heures ou 3 heures où j'ai rien de particulier à faire, d'aller m'aérer et puis de me concentrer sur rien sauf une petite balle que j'essaie de taper à travers la cambrousse.
Les échecs, c'est quoi alors ?
Oh, les échecs, c'est...
Non, parce qu'il y a des jeux.
C'est le domaine de l'absolu, peut-être. Je vis dans l'aléatoire, toujours. Et c'est réconfortant d'avoir quelque chose qui ne se modifie jamais. J'adore les échecs parce que vraiment, il n'y a aucun élément de chance qui rentre dedans. Et quand on connaît un peu les échecs, je ne suis pas très grand joueur d'échecs, mais je joue assez bien pour pouvoir apprécier une partie d'échecs comme une œuvre d'art. Vous savez que les échecs, les parties d'échecs, ça se note. Et on peut rejouer des parties d'échecs qui ont été jouées il y a 150 ans. 150 ans, bon, c'est peut-être un peu vieux pour apprécier aujourd'hui, mais il y a des parties qui ont été faites il y a 50 ans, qui sont des choses de toute beauté. On arrive à se mettre dans la tête des joueurs qui jouaient.
Comment est-ce qu'on arrive à se faire un emploi du temps décontracté dans une carrière aléatoire où justement il faut quand même se maintenir, ne serait-ce que pour soi-même ?
Comment est-ce qu'on y arrive ? On y arrive assez mal parfois à concilier le spectacle avec une vie normale, parce que le spectacle est quand même le dernier refuge de la saltimbanquerie. Il y a par définition des...
Est-ce qu'on peut se dire qu'une chanson, ça peut être un grand machin ? Ou bien on se dit, tiens, moi aussi, je pourrais faire du cinéma, je pourrais faire un film, je pourrais faire une tragédie shakespearienne.
La chanson, c'est un artisanat beaucoup plus qu'un art, je crois. C'est-à-dire, on façonne ce qui est autour d'une chanson. Quand on écrit une chanson, on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'impression, quand on fait une bonne chanson, de l'avoir écrite. On a l'impression de l'avoir trouvée. Parce qu'une chanson est une chose naturelle. Il est évident qu'on peut également faire des paroles très savantes sur de la musique dodécaphonique, mais... Pour moi, c'est pas la chanson, c'est une conception qui ne regarde que moi. Je considère que la prétention qu'on peut avoir dans la chanson, c'est de travailler de son mieux avec ce qu'on a, mais non pas avoir de la prétention pour la chanson objet. Il y a des grandes chansons, ça existe, mais c'est l'exception qui confirme la règle, quoi.
Et le cinéma ? Vous êtes
déjà... C'est un autre métier. J'ai vu le cinéma de près, c'est évident, parce que j'ai grandi dans une famille de cinéma. Quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'un adulte allait au studio. Comme un petit boulanger a l'impression sûrement que quand on est grand, on va pétrir le pain à 3h du matin. Mais je l'ai fréquenté d'assez près justement pour savoir qu'on ne s'improvise pas cinéaste ni comédien. C'est un métier qui s'apprend comme un autre. Je sais que pour avoir un tout petit peu de sûreté dans ce que je fais moi, ça fait quand même 15 ans que je suis sur scène. J'aurais pas la prétention de faire du cinéma, pas plus que je n'admets la prétention de certains comédiens qui se mettent à chanter sans savoir ce que c'est.
La foule, le public, c'est important ?
Ben, le public, c'est un mot désagréable, en fin de compte. C'est pas parce que vous avez 2000 personnes qui s'entassent dans une salle que c'est pas 2000 individus. Et la réaction d'une salle n'est pas propre à la salle, c'est propre à qui est là. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces gens avant de venir ? Parce qu'on a tendance à oublier que, quand on regarde les gens du premier rang, que le monsieur, il s'est fait peut-être repasser le costume bleu. Il a peut-être acheté les billets pour le spectacle une semaine avant, ils y pensent, c'est un événement. Et puis le type à côté de lui s'est peut-être bagarré avec sa femme avant de venir au spectacle, alors lui il réagit plutôt mal.
Les États-Unis, c'est fini ou pas du tout ?
Ah non, c'est jamais fini. J'y passe quand même un minimum de mois par an. Et ce sera toujours chez moi, il n'y a pas de problème. En plus de quoi... Je fais de temps en temps une petite apparition dans la chanson, en espérant qu'il se passera quelque chose. J'ai pas la possibilité matérielle d'aller construire une carrière là-bas, mais si jamais ça se présentait, je la refuserais pas, ça c'est évident.
La France dévorée par la chanson anglaise, c'est gênant ou pas ? Un changement de civilisation ?
C'est amusant parce que il m'est arrivé de faire un album... qui sont au Canada, d'abord au Canada anglophone, ensuite en Angleterre et éventuellement aux États-Unis. Mais c'est assez difficile de faire admettre à la radio francophone pour la simple raison que j'ai peut-être trop bien travaillé, je suis devenu carrément un chanteur français. Alors on admet que Kaba chante en anglais, bien que ce soit des Suédois, on admet que Sheila chante Singing in the Rain, mais si moi je chante en anglais, ça fait bizarre. Ils ont l'impression de voir John Wayne doublé, ce qui n'est pas du tout le cas, je suis américain à 100%, j'ai toujours chanté en anglais, hein. C'est amusant.
Mais est-ce que la France n'est pas, dans le fond, quand même un peu défavorisée, même l'Europe, dévorée par l'anglais, non?
Je crois que c'est parce qu'il y a un flottement, en fin de compte, dans la musique partout. On ne sait pas exactement ce qu'on veut entendre en ce moment. Il y a des vagues successives de chansons qui changent de mode. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut entendre, je crois que d'abord, il y a le côté danse. L'anglais est une langue qui se cadence mieux pour de la musique de danse. Et surtout, quand on ne sait pas ce qu'on veut entendre, il ne faut pas comprendre. C'est beaucoup plus facile d'écouter une chanson où on ne comprend pas une traître parole que d'entendre des paroles qu'on n'a pas envie d'entendre.
Est-ce qu'on est obligé de respecter une image de marque quand on a une carrière? Les gens se sont fabriqués sans doute un jour d'assin à leur image.
Oui, mais le problème des fois, c'est de savoir quelle image on présente. Parce que si on ne fait pas exprès, ce qui est mon cas, je n'ai jamais essayé de créer une image, je ne sais pas exactement comment on me voit. Alors je ne peux pas respecter. J'ai accepté une fois pour toutes que je ne pouvais faire que ce que je suis. Forcément un peu bidimensionnel, parce qu'un écran de télé, c'est plat, parce qu'une radio, il n'y a qu'un haut-parleur. Alors, c'est évident que ce qu'on présente aux gens n'est qu'une partie de ce qu'on est, mais enfin, c'est quand même une partie de ce qu'on est.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière la partie qu'on montre?
Ah ben, c'est tout le reste de la vie. C'est ce qu'on fait quand on sort de scène. Moi, je sais que j'aurais préféré, quand j'ai commencé, à me rendre compte que le spectacle était un mangeur de vie privée, que quand un chanteur sort de scène, ce serait mieux de le mettre dans une boîte, de rattacher le ruban et puis de lâcher au prochain spectacle. Mais c'est pas comme ça. Bon, ben, disons que quand on se balade dans la rue, on peut se gratter moins facilement là où ça démange que si les gens vous regardent pas. Mais il reste toujours le moment où on rentre à la maison, on enlève ses chaussures, on met ses pantoufles, et puis on se roule par terre avec le chien.
Il y a des grands bonshommes qu'on prend comme image quand on est Joe Dassin.
Alors moi, quand j'ai démarré dans la chanson, j'étais j'idolâtré Georges Brassens. Brassens, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et je dois dire qu'il y a une chose extraordinaire qui s'est passée. J'ai une grande leçon de métier parce que j'imaginais Brassens en marge de la chanson, comme quelqu'un qui faisait ses chansons, qui s'occupait absolument de rien. Et j'ai découvert que c'est un monsieur qui est peut-être plus au courant de ce qui se passe dans la chanson et plus conscient de ce qu'il fait comme travail que n'importe qui. C'est un monsieur qui sait qui est en tête de quelle hit-parade, qui enregistre la BBC, qui sait pertinemment quand il dit un gros mot et qu'il détourne la tête, que ça fait un effet sur le public, c'est formidable. Alors au début, j'étais déçu quand j'ai vu ça, et puis après, je me suis dit quand même, c'est formidable de réussir à faire son métier tellement bien qu'on a l'impression qu'on n'en fait pas.
De temps en temps, tout le monde met des étapes dans sa vie. Joe Dassin, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il voudrait faire?
Dans 10 ans? C'est loin. C'est loin. La chanson, c'est un défi perpétuel. C'est un métier merveilleux, mais c'est un métier où vraiment on ne peut pas dire dans 10 ans, je vais faire ça. Si on est chirurgien cardiaque, on peut dire ça. On peut dire, je vais monter une clinique, ou je vais faire ceci, ou je vais faire cela. Mais si on essaie de penser à un recyclage quand on chante et quand on fait le travail, ben on travaille pas bien, je crois pas. Je crois que la chanson doit rester quelque chose de spontané, de jaillissant. Et quand ça ne l'est plus, c'est à ce moment-là qu'il faut se faire des soucis. Il faut savoir ce qu'on va faire. Moi, de toute façon, je ferai toujours des chansons. Je les ferai peut-être pas de la même façon que je les fais aujourd'hui. Je les défendrai peut-être pas moi-même quand monter en scène n'est plus un plaisir. Mais c'est devenu une partie de ma vie.
Est-ce qu'on se dit pas de temps en temps quand même, j'arrêterai bien maintenant, j'ai une maison, j'aime les échecs, j'aime le golf, je pourrais peut-être restreindre un peu mon train de vie, mais enfin je pourrais m'en sortir encore pendant pas mal d'années.
Je le pensais dans le temps, mais à chaque fois que j'approchais du moment où je m'étais dit avant que ça ferait peut-être assez, je me suis aperçu que j'en avais pas assez du tout. Je crois qu'on se retire difficilement. Et c'est peut-être une bonne chose. Ça doit être difficile, ça doit être très difficile.
L'argent, ça a compté dans la réussite?
Bon, vous savez, de toute façon, c'est toujours plus agréable d'en avoir que de ne pas en avoir. Le spectacle fait partie des métiers privilégiés où on vit bien quand ça marche bien. C'est également un métier où on a assez de mal à prévoir un avenir parce que la fiscalité est faite plutôt pour les hommes d'affaires que pour les saltimbanques. Mais j'ai très bien vécu et j'apprécie le métier qui m'a permis de le faire.
Et si tu n'existais pas est une chanson de Joe Dassin parue en 1975 sur son 9e album Le Costume Blanc. Elle figure sur la face B de Salut, deuxième single de l'album sorti le 24 mars 1976. Et si tu n'existais pas est également sorti en single au Canada et en Grèce, où les deux faces sont inversées. Les paroles évoquent l'histoire d'un homme qui imagine ce que serait sa vie si la femme qu'il aime n'existait pas. Il chante que sans elle, il n'aurait aucune raison d'exister et que sans elle, tout dans le monde serait dénué de sens.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu, j'aurai besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Et si tu n'existais pas est un slow adapté de la chanson italienne Oasis, écrite par Vito Pallavicini, composée par Pasquale Lozzito et Toto Cutugno, et destinée pour le groupe de Cutugno, Albatro. Cette chanson n'est finalement pas enregistrée par le groupe, Toto Cutugno préférant confier la chanson à son ami Joe Dassin, qui quelques mois plus tôt avait interprété l'une de ses compositions, L'été indien, devenue par la suite un succès international. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous retrouverai avec plaisir très bientôt pour d'autres chansons qui nous racontent.